Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio de la Paix. À la une de ce bulletin, prochaine législative ivoirienne, la commission électorale indépendante rencontrait hier les partis et groupements politiques pour les préparatifs en vue du 27 décembre 2025, date proposée par la commission. Réunion qu'a boycotté le PDCI, RDA, on en parle dans cette édition. Et puis la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire a dressé le bilan de ses actions et présenté ses perspectives. C'était au cours d'une réunion vendredi dernier. Tentative de coup d'État au Mali, plusieurs personnes arrêtées, dont un Français, selon un communiqué des autorités militaires. Et puis dans l'invité de la rédaction, Didier Blé recevra le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. Mamadou Koné reviendra sur la signature de la convention pour la prise en charge rapide des victimes d'accidents de la voie publique. Ça sera en toute fin d'édition. En Côte d'Ivoire, les prochaines élections législatives pourraient se tenir le samedi 27 décembre 2025. C'est la proposition que la commission électorale indépendante compte soumettre au gouvernement. L'annonce a été faite hier jeudi par son président, Coulibaly Ibrahim Cuibière, lors d'une réunion d'information et d'échange sur les dispositions pratiques liées à cette élection des députés à l'Assemblée nationale. Le compte-rendu, Junior Cardin.
Réunis autour de la commission électorale indépendante, les acteurs politiques ont été informés des préparatifs en vue des législatives.
Compte tenu des impératifs constitutionnels et de la nécessité de permettre la rentrée parlementaire avec les nouveaux élus le 19 janvier 2026, date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale, la commission électorale indépendante propose au gouvernement la date du 27 décembre 2025 pour l'organisation des prochaines élections législatives.
Pour étayer sa proposition du 27 décembre, le président de la CEI, Coulibaly Cuibière Ibrahim, s'appuie sur les dispositions constitutionnelles.
L'article 90, alinéa 1 de la Constitution prescrit que les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Ce qui, pour l'Assemblée nationale, correspond au 31 décembre 2025, si l'on se réfère à l'article 94, alinéa 4 de la Constitution qui indique clairement que la deuxième session de l'Assemblée nationale prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Quant aux inquiétudes exprimées par certains sur un possible chevauchement avec la présidentielle, susceptible d'affecter la qualité des opérations, le président de la CEI se veut rassurant.
Tout a été planifié de façon à faire débuter le dépôt des dossiers de candidature après la proclamation solennelle des résultats pour la désignation du prochain président de la République. Ce faisant, la CEI pourra se consacrer ensuite entièrement à l'organisation des élections législatives.
En revanche, Coulibaly Cuibière Ibrahim affirme qu'une révision de la liste électorale avant la fin de l'année est irréalisable.
Et puis à cette réunion d'échange entre le président de la commission électorale indépendante et les acteurs politiques portant sur les prochaines législatives, le PDCI RDA, parti d'opposition, n'y a pas pris part au motif qu'il dénonce une procédure inhabituelle engagée alors que le pays se prépare à la présidentielle. Écoutons à ce propos un extrait de la déclaration lue par Jean-Licane Yagui au représentant du président du PDCI RDA qui a donné sa position.
Le PDCI RDA marque son étonnement quant à cette procédure inhabituelle qui intervient en plein préparatif de l'élection présidentielle, élection majeure de la vie de notre nation. Visiblement, cette démarche insinueuse a pour objectif de mettre à mal la dynamique de mobilisation de l'opposition contre un quatrième mandat anticonstitutionnel et passer en perte et profit les revendications légitimes pour une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée. Au demeurant, le PDCI RDA n'est pas concerné par cette invitation, d'autant plus que le parti a suspendu le 14 avril 2025 sa participation à toutes les activités de la commission électorale indépendante, tant à la commission centrale que dans les commissions électorales locales. Le PDCI RDA reste attaché à son ambition de voir le président de la République convoquer un véritable dialogue politique préalable à l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée.
C'était un extrait de la déclaration lue par Jean Likan Yagi, haut représentant du président du PDCI-RDA, donnant donc la position du parti quant à la réunion d'échange entre la CEI et les acteurs politiques. Toujours dans l'actualité nationale, la renonciation récente à la nationalité française de l'ex-premier ministre Patrick Achi fait réagir pour Dr Landry Amoussou, spécialiste de droit administratif, quoique cette renonciation ait un caractère personnel. Dans le cas de Patrick Achi, l'on est obligé de faire le lien avec la politique, notamment dans l'optique de former un duo avec le candidat Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle à venir. Écoutons les explications de Dr Landry Amoussou.
En réalité, c'est une décision, effectivement, qui est une initiative personnelle, renoncer à sa deuxième nationalité. Mais on est obligé de faire un lien avec peut-être les ambitions politiques des anciens premiers ministres, parce que, contrairement aux autres échéances électorales, l'élection présidentielle requiert un vice-président qui est exclusivement ivoirien. Peut-être que cette démarche s'inscrit dans un duo présidentiel qui sera peut-être présenté aux Ivoiriens dans quelques temps, avec le président Ouattara comme président et peut-être le vice-président Patrick.
Comment est-ce que cette renonciation de nationalité est différente de celle de Tidiane Thiam? En quoi c'est différent dans les deux cas?
Cette double nationalité, n'oubliez pas qu'en droit ivoirien, elle suggère deux cas. Soit l'individu a renoncé à sa double nationalité ou le cas où il avait sollicité la nationalité française. Mais dans les deux cas, la question effectivement mérite d'être discutée auprès du Conseil constitutionnel. Je crois que les deux ne sont pas dans la même situation. De toute façon, il reviendra au Conseil constitutionnel de valider ou pas la candidature de M. Achi. Comme je disais tantôt, c'est une démarche qui s'inscrit peut-être dans le duo et on verra les arguments qui seront effectivement invoqués pour savoir si cette renonciation entre dans l'article 55 ou 54 de notre Constitution.
À l'instant, Dr Landry Amoussou, spécialiste en droit administratif, interrogé par Constant Maillet, il réagissait sur la renonciation récente à la nationalité française de l'ex-premier ministre Patrick Achi. Direction Yamoussoukro, où la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, la FPHCI, a organisé vendredi dernier une journée d'information, de sensibilisation et d'échange, réunissant ses plus de 4000 délégués villages et tous les dirigeants des sociétés coopératives. L'événement avait pour objectif de présenter les projets réalisés par la Fédération, les défis à relever pour dynamiser le secteur, ainsi que les perspectives d'amélioration. En ligne de Yamoussoukro, notre correspondant Emiliao.
Les producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, représentés par Dali Jules, le président du conseil d'administration de la Fédération des organisations professionnelles agricoles du secteur, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son soutien continu à leur filière.
Depuis son accession au pouvoir d'État, il a suffisamment démontré que les producteurs des filières agricoles sont l'objet d'une attention particulière de sa part.
À cette occasion, Charles-Emmanuel Yassé, président du conseil d'administration de la PROMAC, a dressé un bilan des actions de développement menées sur le terrain, mettant en lumière les performances remarquables de la Côte d'Ivoire dans la filière EVA-icole.
En effet, la Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc naturel, occupe le troisième rang mondial avec une production qui croît à un rythme moyen de 21% par an. La production nationale de caoutchouc naturel est passée de 350 000 tonnes en 2015 à plus de 1 700 000 tonnes en 2024.
Le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, a salué ces réalisations tout en soulignant les défis futurs à relever.
Nous avons atteint notre capacité de transformation de premier niveau. C'est pour cela que l'objectif, c'est de produire davantage. Le défi que nous devons relever aujourd'hui n'est pas de nous limiter à la transformation de premier niveau. Nous devons aller au-delà pour atteindre le deuxième, le troisième niveau.
Enfin, les 4014 délégués villages et 360 dirigeants des sociétés coopératives présents à cette rencontre ont été chargés d'une mission de sensibilisation auprès de leurs pairs producteurs afin de promouvoir le projet de valorisation du bois de l'EVA. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
et de Yamoussoukro, nous nous rendons dans l'indigné Djabla où la préfecture de région a abrité un important atelier de restitution de l'étude sur l'élaboration du plan climat du district autonome de la Komoué. Le compte-rendu est signé Patrick Kwadio.
Objectif principal, présenter les grands axes du diagnostic territorial réalisé, identifier les enjeux environnementaux majeurs, recueillir les contributions des acteurs locaux pour enrichir le futur plan climat. Aristide Goné, directeur général de l'initiative pour le développement de l'agriculture en Afrique, INIDA, cabinet en charge de la réalisation du plan climat.
Nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes de façon très participative. Nous avons inclus tous les acteurs du territoire dans l'approche, dans la méthodologie. Nous avons travaillé en deux phases. Dans un premier temps, nous avons fait un diagnostic climat. Le diagnostic climat a permis de pouvoir élever en fait certains impacts négatifs du changement climatique sur le territoire. À l'issue de ça, nous avons élaboré un plan climat qui est un ensemble de mesures, projets, actions visant vraiment impacter positivement la réduction des effets du changement climatique.
Le district autonome de la Komoué est l'initiateur de ce projet. Le premier vice-gouverneur a mis en quoi?
Quand on parle de plan d'action climat, il s'agit bien de l'agrémentation de la pluviométrie. Et lorsqu'il y a une conséquences de pluviométrie, il y a beaucoup de choses qui se signalent. Absence d'eau, sécheresse, et tout ça, ça crée des problèmes. Vous savez bien que l'eau, d'abord, est source de vie et source de mort. S'il n'y a pas l'eau, il y a problème. Les plantes et tout ça, l'homme même ne tiendra plus. C'est une des raisons majeures pour lesquelles cet atelier a pu avoir lieu. Après le diagnostic, aujourd'hui, c'est le plan d'action pour lequel nous allons nous initier à voir les actions correctives pour tenter de régler un peu ce qu'on peut régler.
Le changement climatique est un phénomène qui préoccupe plus d'un dans la région de l'Indigné Djabla. Patrick Kwadio à Bangourou, Radio de la Paix.
L'actualité hors de la Côte d'Ivoire nous conduit au Mali où les autorités militaires ont déjoué une tentative de coup d'État, ont-elles annoncé hier soir dans un communiqué lu à la télévision nationale. Un Français soupçonné de travailler pour le service de renseignement français a été arrêté et le Mali accuse des États étrangers d'être derrière cette tentative de déstabilisation, rapporte l'agence France Presse. Et sans transition, nous retrouvons l'invité de la rédaction qui n'est autre que Mamadou Koné, le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. Il revient sur la signature de convention entre son organisation, le Fonds de garantie automobile et le Bureau national ivoirien de la carte brune CDAO dans le but de garantir une prise en charge rapide, digne et sans discrimination des victimes d'accidents de la voie publique, notamment celles évacuées en urgence dans les centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers régionaux. Mamadou Koné répond aux questions de Didier Blé.
Monsieur Mamadou Jeka Koné, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes acteur de deux signatures cadres entre le Fonds de garantie automobile, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI d'une part, mais aussi avec le Bureau national ivoirien de la carte brune CDAO. Est-ce qu'on peut revenir sur les motivations de ces signatures?
La notion même d'accident, avec les conséquences que ça peut apporter, pose vraiment des défis en termes de prise en charge des victimes dans les hôpitaux. Donc, l'idée ici, à travers ces partenariats, c'est de faire en sorte que quand nous avons des accidents avec des blessés graves, des blessés légers, et que ces blessés-là sont transférés dans les hôpitaux et dans les urgences, l'idée de cette convention, c'est de faire en sorte que la prise en charge soit la plus rapide possible. L'ASACI, le Fonds de garantie automobile et la CALBRIN ont signé une convention qui est dédiée, évidemment, lorsque les victimes sont transférées dans les urgences, dans les hôpitaux publics, tout de suite, la prise en charge est faite par le Fonds de garantie automobile pour le compte de tout le monde.
Qu'est-ce qui change dans l'univers quand on sait que c'était un élément qui apporte une certaine plus-value, un soulagement?
Ce qui change, c'est l'instantanéité dans la prise en charge de la victime. La victime pouvait rester comme ça parce que l'assureur n'a pas confirmé et lorsque la victime est transférée à l'hôpital, voilà, elle pouvait continuer à souffrir, qu'on lui demande des dépôts, des cautions pour être prise en charge alors que la victime est déjà traumatisée. Ce qui change, c'est que là, désormais, cette prise en charge elle est systématique. Et avec la digitalisation des attestations d'assurance automobile aussi, et tout de suite, on peut vérifier si le véhicule était assuré ou pas. Donc là aussi, on n'a même pas d'ambiguïté. On a déchargé la victime de toutes les sources d'inquiétude.
Ce qu'on est, qu'en est-il des centres hospitaliers qui reçoivent justement ces victimes? Est-ce que les privés sont concernés?
Non, pour l'instant, les privés ne sont pas concernés. Ce sont les hôpitaux publics dans lesquels lesquelles sont évacuées les victimes. Et en général, à l'intérieur du pays, c'est souvent le cas, y compris même à Abidjan. Soit les victimes sont évacuées dans les CHU, soit les victimes sont évacuées dans les CHR quand il s'agit de l'intérêt du pays.
Est-ce qu'on pourrait parler justement de cette double convention et le contenu et les avantages?
Eh bien, le contenu, ce sont les obligations du Fonds de garantie automobile, de l'ASACI. Et derrière l'ASACI, ce sont les 22 sociétés d'assurance qui sont derrière, mais aussi les obligations de la CARPRINCEDEAO. L'obligation du Fonds de garantie automobile, c'est de faire en sorte que lorsque ces victimes-là sont transférées dans les hôpitaux et qu'il est établi qu'évidemment ce sont des victimes assurées, que la prise en charge du Fonds de garantie automobile soit systématique. Donc, l'idée pour le Fonds de garantie automobile en l'espèce, c'est de donner les prises en charge nécessaires ou de faire les paiements nécessaires pour que les hôpitaux dans lesquels ces victimes-là sont transférées puissent délivrer les soins en toute sérénité, sans difficulté, sans toute forme de pression sur la victime, en tout cas que la prise en charge soit la plus totale possible. Là, c'est l'obligation du Fonds de garantie automobile dès lors qu'il est établi que ces personnes-là sont dans des véhicules qui ont été assurés. Après, les compagnies d'assurance qui sont derrière, pour lesquelles ces prises en charge ont été effectuées, ont une obligation vis-à-vis du Fonds de garantie automobile, c'est de rembourser évidemment les fonds qui auront été déboursés par le Fonds de garantie automobile dans le cadre de ces prises en charge-là.
Qu'en est-il de la carte brune de la CDAO, justement, et sa part, puisqu'on parle d'intégration régionale?
Oui, l'objectif de la carte brune CDAO, c'est de prendre en charge les sinistres transfrontaliers, des véhicules qui circulent dans l'espace CDAO, qui pourraient avoir causé des sinistres ici en Côte d'Ivoire. Et moi, l'objectif de la carte brune CDAO, c'est de faire en sorte que la prise en charge soit systématique, pour éviter évidemment que ces véhicules-là qui viennent peut-être du Ghana, qui viennent du Togo, ou bien d'autres pays de la CDAO, leurs assureurs se trouvent dans ces pays-là. Quand ces véhicules-là sont ici en Côte d'Ivoire, l'objectif de la carte brune CDAO, c'est de leur donner la couverture nécessaire pour la prise en charge des sinistres. La carte brune CDAO se substitue dans son assureur, dans son pays, pour faire la couverture. Et la carte brune CDAO va rentrer dans son mécanisme de compensation pour retrouver l'assureur du véhicule concerné dans son pays et procéder à son remboursement.
On n'a pas de crainte concernant les recouvrements un peu compliqués?
Oui, évidemment, tout ça, ça peut rendre les recouvrements un peu compliqués, mais je pense que le secteur a beaucoup évolué dans son système de recouvrement. Le secteur a beaucoup évolué, les recouvrements sont beaucoup plus fluides. Les différents marchés pour la carte brune CDAO se retrouvent régulièrement pour faire le point et s'auto-rembourser. On ne devrait pas avoir de problème de remboursement, d'autant plus que cette convention-là, elle existait de façon beaucoup plus bilatérale entre Fonds de garantie et certaines compagnies d'assurance.
Quels sont vos espoirs, vos attentes?
L'espoir, l'attente, c'est vraiment ce que le secteur des assurances, dans son ensemble depuis quelques années, est rentré dans une dynamique d'amélioration continue par rapport à l'expérience client, par rapport à l'expérience assurée. Nous travaillons toujours à initier de nouvelles réformes, toujours dans l'intérêt des assurés et bénéficiaires des contrats, et toujours dans l'intérêt de faire du secteur des assurances un tiers qui apporte du soulagement aux populations ivoiriennes à travers leurs contrats d'assurance, mais aussi, surtout, à travers les assurances de responsabilité civile, mais aussi à travers les investissements que nous faisons dans l'économie de façon générale.
Monsieur Mamadou Kone, président de l'ASACI, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, et puis je reste à votre disposition pour continuer encore à parler du secteur des assurances.
C'était le président des associations des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, Kone Mamadou, invité de la rédaction ce vendredi matin. Il répondait aux questions de Didier Blé, un entretien que vous pourrez retrouver dans l'édition de 12h. C'est la fin de ce 7h, le rappel de l'essentiel. La CEI a échangé hier avec les partis et groupements politiques pour préparer l'élection législative devant se tenir en décembre. Réunion qu'a boycotté le PDC-RDA, arguant que c'est une démarche insidieuse pour mettre à mal la dynamique mobilisation de l'opposition contre un quatrième mandat. Et puis, tentative de coup d'État au Mali, plusieurs personnes arrêtées dont un Français selon un communiqué des autorités maliennes. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous 8h.